VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Conakry, 18h à Bangui, bienvenue à notre journal. Gambie, la force ouest-africaine de la CDAO déployée dans le pays le mois dernier pour aider le président Adama Barrow à accéder au pouvoir, sera réduite de 4 000 à 500 soldats ce mois-ci. Des détails avec Jacques Aristide.
Cette diminution progressive des troupes doit démarrer au plus tard le 19 février. D'après un communiqué émis par le bureau du président, lu à la télévision d'État, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avait lancé le 19 janvier une opération militaire en Gambie, formée officiellement de soldats de 5 pays membres. Leur mandat initial consistait à contraindre au départ le président sortant Yahya Jammeh, qui refusait de céder le pouvoir au président élu Adama Barrow après la présidentielle du 1er décembre dernier. Monsieur Jammeh a finalement quitté le pays le 21 janvier pour un exil en Guinée équatoriale. Un précédent communiqué de la présidence gambienne, publié mercredi, annonçait un prolongement de 3 mois renouvelable de la mission de la CDAO pour renforcer la sécurité du pays. Le Sénégal, le Nigeria et le Ghana maintiendront l'effectif de quelques 500 hommes sur le sol gambien à partir du 21 février, d'après le général sénégalais François Ndiaye, commandant des troupes de la CDAO. Le désengagement graduel des forces terrestres se fera après le départ des composantes aériennes et navales, à compter donc du 19 février.
Catastrophe ferroviaire des ECA au Cameroun, la justice française s'est déclarée incompétente pour mener une enquête dans cette affaire mettant en cause Camrail, la filiale camerounaise du groupe français Bolloré. En octobre dernier, un train qui assurait la liaison entre Yaoundé et Douala a déraillé près de la gare des ECA, faisant 79 morts et au moins 550 blessés. Anastasie Toudjèche.
Après la catastrophe, plusieurs organisations camerounaises s'étaient portées partie civile et avaient déposé plainte à Nanterre, notamment pour homicides et blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui. Les plaignants mettaient en cause la gouvernance du transport ferroviaire par l'État camerounais et s'interrogeaient sur les conditions de privatisation de la Société nationale des chemins de fer. Camrail est contrôlé à plus de 77% par le groupe français Bolloré, dont le siège est près de Nanterre. Porter plainte dans cette ville, c'était pour l'avocat des plaignants le moyen d'agir au plus près de celui qui contrôle le capital. Mais le parquet de Nanterre s'est dit incompétent, car les victimes françaises ne vivaient pas à Nanterre. Une enquête judiciaire est en cours au Cameroun.
En RDC, arrestation du leader d'une secte à la base de tueries répétées à Butembo, province du Nord Kivu, dans l'est du pays. L'homme est surnommé le boucher de Butembo et il a été arrêté avec deux de ses complices, Eddy Sango.
La secte appelée les Corps du Christ est accusée d'être à la base de certaines des tueries dans les grands nord de la province du Nord Kivu. L'homme arrêté, David Maranata, en est le chef. Il a été appréhendé avec deux de ses acolytes, selon le porte-parole des opérations des FRDC dans la région, le lieutenant Mac Azoukai, joint par VOA Afrique. C'est lui qui, selon le lieutenant Azoukai, est le présumé auteur de la décapitation l'année dernière des plusieurs policiers dans les quartiers Fourou, dans la banlieue de Butembo. Les bouchers de Butembo, comme il est surnommé, avaient également, selon l'armée, organisé une expédition militaire contre des positions de la MONUSCO et avaient tué un casque bleu et un militaire congolais. Comme les ADF et les Mai Mai, la secte est accusée de tuer ses victimes à la machette et autres armes blanches.
En RCA, au moins 20 combattants ont été tués dans la localité aurifère de Ndassima, à une quarantaine de kilomètres de Bambari, dans le centre du pays. Des affrontements opposent deux factions rivales de l'ex-rébellion Seleka et les populations déjà meurtries par plusieurs années de tueries et massacres fuient dans toutes les directions. Au micro d'Idriss Fall, les explications d'Yvonne Lo, représentant du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge à Bambari.
Il y a énormément de mouvements de population. La ville de Bakala s'est presque entièrement vidée. Pas mal de gens qui fuient sur l'axe de Ndassima. Il y a pas mal de gens qui sont partis également. Enfin, Ndassima moins, parce que Ndassima est un carré minier. Mais la ville de Djoubissi, qui se trouve en amont, s'est vidée. Et alors, sur l'axe, en Haute-Côte, sur l'axe entre Bria et Ipi, il y a eu également pas mal de mouvements de population. Les gens ont peur et fuient les combats. D'autant plus qu'il y a une petite dimension ethnique qui risque toujours de pointer. Les groupes sont quand même stéréotypés. Il y a des gens qui fuient parce qu'ils ont peur d'être pris pour cible.
Mais en fait, ces deux groupes qui se battent sont majoritairement musulmans, notamment le groupe de Nouredine Adams et Ndaras qui est peul.
Oui, ce sont des groupes de musulmans, ça c'est ce qu'ils ont en commun. Mais après, les groupes sont identifiés par rapport à des ethnies qui sont différentes. Même si les groupes ne sont pas du tout homogènes, il y a une certaine importance qui est perçue, à tort ou à raison, mais qui est perçue comme telle.
Yves Van Loo, le représentant du CICRA Bambari en Centrafrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Actualité américaine maintenant, 2 mois après un coup de fil retentissant avec Taïwan, le président Donald Trump a apaisé la Chine en assurant à son homologue chinois Xi Jinping au téléphone qu'il respecterait le principe d'une seule Chine. Le point avec Saloua Jafari.
À Pékin, l'heure était à l'optimisme aujourd'hui.
Ensemble avec les États-Unis, nous voulons faire des efforts conjoints pour élargir notre coopération dans l'esprit de ce dialogue récent et pour renforcer nos relations bilatérales afin d'obtenir plus et des meilleurs résultats.
Lors d'un entretien téléphonique, Donald Trump et Xi Jinping ont discuté de nombreux sujets et le président américain a accepté de respecter le principe d'une seule Chine. Dans un entretien au quotidien Wall Street Journal en janvier, Donald Trump avait indiqué être prêt à remettre en cause le principe, estimant que tout était sur la table, y compris la Chine unique. La Chine interdit à tout pays avec lequel elle a des relations diplomatiques d'en avoir simultanément avec Taïwan. Washington a ainsi coupé ses liens en 1979 avec Taïwan et reconnu le régime communiste de Chine continentale comme l'unique autorité légitime chinoise.
À noter que le président Donald Trump reçoit aujourd'hui à Washington le premier ministre japonais Shinzo Abe avant de s'envoler avec lui pour un week-end de golf en Floride avec la volonté affichée de tisser des liens personnels entre les deux leaders. Le chef du gouvernement japonais est le deuxième dirigeant étranger à venir à la Maison-Blanche depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Et toujours concernant l'actualité américaine, le président Donald Trump a qualifié ce matin de décision scandaleuse le jugement de la Cour d'appel de San Francisco en Californie la veille, qui a maintenu la suspension de son décret très controversé, interdisant temporairement l'entrée aux États-Unis des ressortissants de 7 pays à majorité musulmane. L'administration Trump avait demandé à ce tribunal d'annuler l'ordonnance de suspension prise en première instance et en urgence le 3 février par le juge fédéral James Robert de Seattle dans l'État de Washington, Georgie.
Pour les 3 juges, le gouvernement n'a pas démontré que son appel a des chances de succès. Quant au fond, il n'a pas non plus démontré que maintenir la suspension du décret causerait de graves atteintes à la sécurité des États-Unis. Rendez-vous au tribunal, la sécurité de notre nation est en jeu, a tweeté le président Trump peu de temps après la publication de la décision de la Cour d'appel. S'adressant à des journalistes, il s'est plaint plus tard de ce qu'il a appelé une décision politique en assurant que son administration finira par avoir gain de cause très facilement. Pour sa part, le ministre de la Justice de l'État de Washington, Bob Ferguson, qui a plaidé contre le décret migratoire, a déclaré lors d'une conférence de presse à Seattle « Nous sommes une nation de lois et ces lois s'appliquent à tout le monde dans le pays et cela inclut le président des États-Unis. À mon avis, l'avenir de la Constitution est en jeu. » On s'attend maintenant à ce que ce cas finisse devant les juges de la Cour suprême des États-Unis.
Et pour terminer, conflit au Yémen, 3 agences de l'ONU ont lancé ce vendredi un appel à une aide d'urgence pour éviter une catastrophe humanitaire au Yémen. Les précisions de John Lyndon.
Selon une évaluation réalisée par l'OPAM, la FAO et l'UNICEF, plus de 17 sur les 27 millions de Yéménites ont des difficultés à se nourrir. 7 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence, soit 3 millions de plus qu'à l'été 2016. Le taux de malnutrition a atteint le seuil critique de plus de 15% de la population dans 4 régions. La vitesse à laquelle la situation se détériore est extrêmement préoccupante, a déclaré Salah El-Hajj Hassan, représentant de la FAO au Yémen. Steven Anderson, directeur du PAM, a prévenu que 7 millions de personnes risquaient de ne pas pouvoir survivre si la situation devait perdurer. Chez les enfants, l'UNICEF parle de taux de malnutrition jamais atteint. Le Yémen est déchiré depuis 2015 par un conflit qui a fait plus de 7 400 morts et plus de 40 000 blessés. Mercredi, l'ONU a réclamé un peu plus de 2 milliards de dollars pour aider rien que cette année 12 millions de personnes affectées par ce conflit, donc 2 millions d'enfants qui souffrent de graves malnutrition.
Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.